Bien, rebonjour à tous. Bienvenue à ce segment expert du podcast Repair, épisode 4, sur les stigmas liés à l'image corporelle et les troubles de comportement alimentaire. Je m'appelle Raphaël Desrochers. Je suis étudiant au baccalauréat en psychoéducation. Je suis rendu à ma deuxième année et je suis accompagné de Jessica Rondeau, intervenante psychosociale au service aux étudiants. Et on a l'honneur d'inviter Marie-Pierre Gagnon-Giroir à ce segment expert, donc je la laisse se présenter.
Merci Raphaël, merci beaucoup pour cette invitation-là. Moi, je suis professeure en psychologie, j'enseigne en psychologie de la santé, je suis aussi psychologue clinicienne. Je travaille sur tout ce qui touche l'image corporelle. Ça veut dire un peu comment nous, on voit notre corps, comment on perçoit le corps des autres, puis qu'est-ce qui nous fait du bien et nous fait pas du bien dans tout ça. Je suis très contente d'être ici.
On est très contente de te recevoir. Oui. Bah, tu as partiellement répondu à ma première question, Marie-Pierre. Mais qu'est-ce que l'image corporelle?
C'est un terme quand même large. Quand on parle d'image corporelle, là, on parle de toute l'expérience qu'on a de notre corps. Des fois, on a l'impression que l'image corporelle, c'est juste est-ce qu'on s'aime ou on s'aime pas. C'est vraiment plus que ça. C'est vraiment l'expérience de notre corps par en dedans. Comment on se sent dans notre corps? Comment on apprécie ce qu'il est capable de faire? C'est aussi comment on le trouve. On le trouve-tu beau? Y a-tu des parties qu'on aime moins? Ça comprend aussi tout ce qu'on fait pour s'occuper de notre corps. Comment je fais pour en prendre soin? Est-ce que je veux le modifier? Est-ce que je l'accepte comme il est? Tout ça, ça fait partie de l'image corporelle.
Parfait. Donc, il y a vraiment deux distinctions, si je comprends bien. Là, il y a l'apparence et l'appréciation fonctionnelle. C'est ça. Donc, comment notre corps fonctionne? Ben, à quoi il sert? Est-ce qu'il est fort, rapide, tout ça? Et il y a l'image, c'est ça?
Oui, il y a vraiment deux distinctions, comme tu dis, Raphaël, deux distinctions super importantes de est-ce qu'on voit notre corps comme une image? Là, on va appeler ça plus la satisfaction par rapport à notre corps. Je le trouve-tu beau quand je le regarde dans le miroir, ce corps-là? Puis c'est vraiment de le voir comme une image ou une carte de visite qu'on présenterait aux autres. Voici mon corps, de quoi il a l'air. Ça ressemble un peu, si on veut faire une image, là, à la petite case zoom, là, quand on se voit, là, tu sais, de comme ça, c'est ma face, puis c'est de ça que j'ai l'air. L'autre dimension, c'est vraiment l'appréciation fonctionnelle, c'est-à-dire de ressentir mon corps par en dedans. Ah, qu'est-ce qui fait mon corps? Il est-tu fort? Il court-tu vite? Il me permet-tu de penser, d'imaginer des affaires, de me déplacer, d'être en lien avec les autres? C'est comme l'expérience de notre corps par en dedans, là, tu sais, de voir notre corps comme pas seulement une image qu'on présente aux autres, mais vraiment un véhicule. C'est notre véhicule pour habiter notre vie, dans le fond.
C'est vraiment intéressant comme idée. Ça m'amène un peu à me poser la question, puis la dite question qui tue un peu, est-ce que c'est vrai que l'insatisfaction, est-ce que ça serait vrai de dire que l'insatisfaction corporelle est devenue un peu comme une norme tellement elle serait répandue?
Oui, c'est triste de dire ça, mais oui, on appelle ça l'insatisfaction corporelle normative, justement, là, pour décrire l'espèce de phénomène où tout le monde est un peu pas content de son corps. C'est un peu... en fait, c'est plus courant quelqu'un qui aime pas la plupart des aspects de son corps, qui voudrait modifier des choses. C'est plus courant que quelqu'un qui dit « Ouais, moi, je le trouve beau, mon corps, je l'aime comme il est. » Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça normatif. Ça veut dire que c'est normal de se questionner, de pas s'aimer partout, de ne pas s'aimer tout le temps, pas tous les matins, pas tous les jours. La plupart des gens vont dire ça, là, qu'ils ne sont pas très satisfaits de l'apparence de leur corps. Puis quand j'ai commencé ma carrière, je me disais, hey, c'est un gros problème, tu sais, que la plupart des gens ne trouvent pas que leur corps est beau. Puis plus ça va, plus je me dis, mais je ne sais pas si c'est ça le problème, tu sais, ou c'est juste qu'on accorde beaucoup d'importance à mon corps, y est-tu beau ou pas. Tu sais. Peut-être qu'un corps, ça n'a pas nécessairement besoin d'être beau, finalement.
Fait qu'on n'est pas obligé d'être satisfait de notre image.
Non, puis des fois, c'est une pression, je trouve, qu'on se met. Là, t'sais, il y a un peu un courant d'acceptation, de diversité. Tout le monde devrait s'aimer. T'sais, s'aimer, c'est une grosse patente. Là. C'est pas si facile. Ça veut pas dire s'aimer au complet. Ça veut pas dire aimer tous les détails. Puis peut-être que ça veut surtout dire apprécier ce que notre corps est plutôt que dire que tout notre corps est beau. Tu sais, je me rappelle d'une participante dans une de mes études. Tu sais, on fait une étude, puis on passe un questionnaire. Puis une des questions dans le questionnaire, c'est « Est-ce que vous aimez vos cuisses? Est-ce que vous trouvez que vos cuisses sont belles? » Puis elle me regarde, puis elle dit « Mais pourquoi tu veux que je trouve que mes cuisses sont belles? Tu sais, c'est-tu obligé d'être beau des cuisses? » Puis je me disais « Ben non! » Effectivement, bon point. Fait qu'on dirait que l'idée chemine de quelque chose qu'on appelle plus une neutralité corporelle, de dire, tu sais, la satisfaction corporelle de se trouver beau, ben tant mieux si c'est ça. Mais si c'est pas ça pour quelqu'un, ben des fois, c'est juste la neutralité puis d'accorder moins d'importance à l'apparence de notre corps.
Mm-hmm. Fait que ça consiste surtout, mettons, tu sais, on se regarde dans le miroir au lieu de se dire « Ah, je suis donc bien beau », tout ça, t'sais, on voit, mettons, ben, je sais pas, là, des petites affaires qui nous dérangent un peu, puis dire « Ben oui, c'est ça, c'est, ça fait partie de moi, puis je suis comme ça ».
Exactement, il y a des affaires que j'aime, il y a des affaires que j'aime moins, il y a des affaires que je peux essayer de m'habiller d'une façon pour mettre en valeur, parce que ça, j'aime ça, puis il y a d'autres choses que je peux me dire, exactement comme tu dis, ben ça fait partie de qui je suis, puis tu sais, mettons qu'on reprend l'exemple des cuisses, ben peut-être mes cuisses, je les trouve grosses, mais mes cuisses, ils me permettent de jouer au hockey, ils me permettent de faire de la rando avec mes amis, ils me permettent de danser, ils me permettent de faire plein de choses, fait qu'ils n'ont pas juste une fonction d'être jolie, ils ont aussi une fonction d'être très utile.
Mm-hmm. En effet. Puis, ça m'amène à la prochaine question. C'est quoi les préjugés face à l'image corporelle? T'sais, ça consiste en quoi, là, en fait?
Ben oui, parce que là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui accordent beaucoup d'importance à l'apparence. Pourquoi on accorde autant d'importance à l'apparence? Tu parles de préjugés, il y a comme un système dans notre société où les gens qui répondent plus à des standards de beauté, on va les considérer comme des meilleures personnes. Ils vont avoir comme plus une meilleure valeur sociale aux yeux des autres. C'est quoi les standards de beauté? C'est être plus mince, être plus musclé, avoir une silhouette fit, avoir l'air en forme, avoir l'air un peu athlétique. En ce moment, c'est ça le standard là, de beauté. Plus on correspond à ça, plus les gens vont nous attribuer une grande valeur sociale, puis moins on correspond à ça. Par exemple, les gens qui ont un corps qui est plus gros, un corps qui n'est pas très tonique, qui n'est pas très musclé, ils vont avoir comme une moins grande valeur sociale. Il y a plein de préjugés envers les personnes qui ont un corps qui est plus gros. On va avoir l'impression qu'ils sont moins disciplinés, qu'ils sont moins compétentes, qu'ils sont comme pas à leur affaire ou qu'ils ne se prennent pas en main. Puis ça, c'est le principal préjugé qu'on voit à l'égard des gens qui ne correspondent pas aux standards de beauté, c'est que c'est un peu de leur faute si leur corps n'est pas selon les standards. Puis donc, il faudrait qu'ils se bottent le derrière puis qu'ils s'arrangent pour être plus beaux, qu'ils s'arrangent pour être plus en forme. Puis donc, on leur tient un peu, on les blâme pour ce corps-là qu'ils ont.
Est-ce qu'on peut même les discriminer? Est-ce qu'ils peuvent vivre une certaine forme de discrimination dans différentes sphères de leur vie?
Vraiment, comme toutes les autres formes de stigmatisation, il y a de la discrimination à tous les niveaux. Tu sais, ça va être plus difficile pour les gens qui ne correspondent pas aux standards de beauté ou qui sont plus gros. Ça va être plus difficile d'avoir un emploi, de rencontrer un amoureux, une amoureuse. Ils vont discriminer même dans les soins de santé. Ils vont être blâmés. J'ai plein d'exemples de personnes qui disent « Je me présente chez le docteur parce que j'ai mal quelque part ou parce que j'ai un problème digestif. » Puis, ils commencent par me parler de mon poids. Ils commencent par me dire qu'il faudrait que je perde du poids. Puis, une des principales formes de discrimination, c'est cette idée-là de dire que... De dire aux personnes qui ont un poids plus élevé qu'elles devraient perdre du poids, comme si c'était facile, comme si c'était faisable à la limite. Fait que ça, c'est une marque de discrimination, mais il y a plein aussi de... Tu sais, c'est un terme à la mode, là, de micro-agression, de dire... de commenter ce qu'une personne va manger en disant « Ben là, t'as vraiment grossi depuis l'année passée, t'es sûr que tu veux manger du dessert. Mais ça, me faudrait que tu t'inscrives au gym, ça te ferait du bien, tu sais, ta bédaine, elle s'en ira pas tout seul. » Ce genre de commentaires-là, c'est des commentaires que les gens vont passer très, très souvent avec une espèce d'intention de bienveillante, des fois, là, de juste « Ben, tu sais, je veux juste prendre soin de toi, je veux que tu sois en santé », mais qui sont super agressives. C'est comme si ça sous-entend que la personne, elle, y a pas pensé, puis qu'elle n'est pas à même de s'occuper de sa santé.
Puis, ultimement, même qu'elle n'est pas en bonne santé.
Mais... Et ultimement, qu'elle n'est pas en bonne santé, ce qu'on peut pas présumer en voyant le corps d'une personne. Tu sais, on peut pas présumer de ses habitudes de vie, puis on peut pas présumer de sa santé. Il y a des personnes très minces en très mauvaise santé, qui font vraiment d'activité physique, qui sont pas actives. Qui... Puis il y a des personnes avec un corps gros qui sont super actives puis qui sont en bonne santé. Puis ça, c'est un raccourci qu'on fait souvent, là, de présumer de la santé ou du style de vie d'une personne sur la base de son poids.
Est-ce que, tu sais, là, je réfléchis un peu tout haut, mais est-ce que ça peut même amener les gens, tu sais, ces micro-agressions-là, est-ce que ça peut même amener, ça peut être un facteur qui amène ces gens-là à développer des troubles un trouble du comportement alimentaire?
Oui, en fait, c'est super. Ça crée vraiment un cercle vicieux parce que ce que la discrimination va faire, c'est que ça va empirer tout ce qui était en lien avec le poids de la personne. Si la personne avait déjà une prédisposition à être préoccupée de son poids, une prédisposition à manger quand elle vit des émotions négatives ou à s'empêcher de manger, tout ça va être vraiment exacerbé. Là, la personne, elle va faire ça plus si elle vit de la honte, si elle vit de l'exclusion, si elle vit un sentiment de ne pas être à la hauteur. T'sais, si tout le monde me fait sentir que je ne suis pas à mon affaire, je ne suis pas bonne, ça me fait pas sentir bien, puis ça risque d'exacerber ma préoccupation, puis ça peut aller jusque vers un trouble des comportements alimentaires.
Mm-hmm. Alors, comment internaliser, finalement, tous ces préjugés-là, puis se les approprier?
Vraiment, puis tu sais, dans l'histoire de la très grande majorité des gens qui ont un trouble alimentaire, il y a eu des traumatismes ou des expériences de discrimination, là. Soit ils ont été victime de ça. Il y a une ma tante qui leur a dit « Toi, t'es la grosse de la famille » ou peu importe. Différents types de traumatismes à l'école ou des fois, ils n'ont pas été victimes de ça, mais ils ont été témoins de ça. Ils ont vu des gens, ils ont entendu leurs parents parler du monde qui était trop gros. Donc, c'est rare quelqu'un qui développe un trouble alimentaire qui n'a pas jamais été exposé à une forme de discrimination liée au poids.
Il y a différents éléments déclencheurs aussi, là, comme on se parlait d'entrée de jeu, là, qu'il y a des moments marquants un petit commentaire agréable qui vient souligner une perte de poids, puis là, poup, ça part.
Ben oui, c'est ça qui est le plus tricky, si on peut dire ce mot-là. C'est ça qui est le plus tricky parce que même un commentaire positif, souvent, là, les gens vont être préoccupés par leur poids, par leur corps au long cours. Puis à un moment donné, comme tu dis, il y a quelque chose qui se passe. Ils ont pogné en gastro, ils ont perdu 20 livres. Puis là, tout le monde se met à dire « Wow, t'es vraiment plus belle, ça te fait bien ». Fait que même les commentaires positifs sur le poids, c'est super risqué que ça vienne engendrer une préoccupation, que la personne se dise « Hey, ça veut dire qu'avant, je t'ai l'air. » mettons, où j'étais moins belle, où j'avais une moins grande valeur, puis là, je me sens bien, ça me fait sentir bien là, d'avoir perdu du poids ou d'avoir, même si c'est parce que j'étais malade pendant 2 semaines, tu sais, fait qu'après, ben ça engendre un « OK, mais si ça continuait, mettons que je pourrais faire continuer ça, là, cette valorisation-là par le fait de contrôler mon corps, ben ça, c'est vraiment une pente glissante vers un trouble alimentaire. »
Un peu encore dans l'idée de ma satisfaction corporelle est attachée à la valeur que je m'accorde comme personne.
Donc voilà, donc tout ce que tu me dis, c'est un peu comme des facteurs de comment s'installe tranquillement de façon insidieuse un trouble du comportement alimentaire. On avait parlé également là, d'entrée de jeu de vulnérabilité génétique. Qu'est-ce qu'il y en a par rapport à ça?
Oui, tu sais, quelqu'un qui développe un trouble alimentaire, ça vient de plein de places, ça vient de plein de causes. Une d'entre elles, c'est cette vulnérabilité-là. Souvent, c'est une vulnérabilité biologique ou génétique. À avoir un trouble alimentaire, oui, tu sais, on va le voir dans les familles. Mettons une maman qui a un trouble alimentaire, souvent ses enfants ont plus de chances d'avoir un trouble alimentaire. Fait que des fois, c'est comme si on dirait que ça se transmet presque automatiquement. Mais c'est aussi des traits de personnalité puis de tempérament qui sont transmis génétiquement. Fait que, mettons la rigidité cognitive. Si j'ai une idée dans la tête puis que là, j'ai décidé que j'allais plus manger de dessert jamais, bien, cette rigidité-là, ça aussi, c'est génétique. L'impulsivité qui va venir, mettons, avec des crises de boulimie, la difficulté à retenir une impulsion, tout ça, c'est des traits de tempérament qui vont être génétiquement déterminés. Fait que la personne arrive avec comme une certaine vulnérabilité à ça. Plus elle a été exposée à la discrimination liée au poids, plus elle a été exposée à les personnes minces sont meilleures, bien là, ça augmente encore plus son risque de développer un trouble alimentaire. Puis, des fois, cette exposition-là, elle va passer soit par la famille, par les amis, mais beaucoup par les médias, puis beaucoup par les médias sociaux, bien sûr. Tu sais, les médias traditionnels, peut-être on en consomme moins. Tu sais, dans le temps, on disait, bien, les photos dans les revues, c'était un idéal irréaliste. Bon, je sais pas s'il y a encore des revues, mais les comptes d'influenceurs qui vont présenter des corps parfaits, modelés, des corps que, sur lesquels ils travaillent presque 24 heures sur 24, bien, plus on est exposé à ça, à cette espèce de beauté irréaliste sur les réseaux sociaux, plus notre risque augmente encore. Puis là, après, il va y avoir justement des éléments déclencheurs. Des fois, ça va être un élément un peu banal comme la puberté. La puberté qui va être soit plus tôt ou plus tard. Une petite fille qui va avoir sa puberté tôt, qui va avoir vite des seins, des hanches, elle va se trouver grosse, plus de chances d'avoir un trouble alimentaire. Un garçon qui va avoir sa puberté tard, qui va attendre ses muscles, qui va se dire qu'il est trop maigre, il est trop petit. Tout ça, c'est des facteurs qui vont encore augmenter le risque. Puis après, c'est ça, il y a un événement déclencheur souvent qui arrive. Une rupture amoureuse, un échec, une difficulté à l'école, du stress, puis là, la personne va comme se mettre à focusser sur son corps, comme si se concentrer sur ce que je mange, ce que je fais comme activité physique, des fois, c'est comme moins compliqué que faire face à tout le stress.
Tellement. C'est une question, une façon de contrôler aussi ce qu'ils peuvent contrôler, finalement.
Vraiment, tu sais, de se concentrer sur quelque chose de concret, là, me semble, le reste, c'est trop compliqué, je vais me concentrer là-dessus. C'est une façon de réguler des émotions, réguler du stress.
Tu sais, de ce que je comprends, il y a aussi un peu de comorbidité avec les troubles anxieux.
Ah, il y a de la comorbidité, pas mal avec tout. Mais oui, avec l'anxiété, tu sais, de l'anxiété de performance, surtout du perfectionnisme. Tu sais, quelqu'un qui veut que les choses soient parfaites, bien, c'est sûr que cette personne-là va vouloir que son corps soit parfait aussi. Fait que souvent, ça va venir ensemble. Ça va venir aussi avec des troubles, tu sais, si on pense à des troubles alimentaires plus impulsifs, comme la boulimie, ça va venir avec des troubles comme les troubles de déficit de l'attention, d'autres troubles liés à l'impulsivité, consommation de substances. Donc, ça, souvent, c'est accompagné de... C'est rare quelqu'un qui a un petit trouble alimentaire juste tout seul de même.
OK. Okay. Ben, tu sais, t'as fait mention de la boulimie, tu sais, je pense que ça nous ramène à la question qu'on voulait poser, tu sais. Faire un petit survol un peu des différents troubles alimentaires qu'on peut retrouver... un peu partout.
Oui, on connaît surtout des fois l'anorexie, là, t'sais, de s'empêcher de manger, perdre beaucoup de poids, devenir très maigre. Ça, c'est comme l'anorexie typique. La boulimie, ça va être aussi cette idée-là de restreindre ce que je mange, mais aussi avec des crises de boulimie. Une crise de boulimie, c'est vraiment perdre le contrôle de ce qu'on mange. T'sais, c'est pas juste manger beaucoup, parce que ça arrive à tout le monde de manger beaucoup. Je sais pas, c'est l'initiation, c'est le temps des fêtes, un samedi soir, une petite fondue. Ça, c'est normal, puis c'est socialement acceptable. Plein de monde font ça, puis personne va vraiment sourciller là, si tu manges un peu beaucoup de fondue. Une crise de boulimie, c'est pas ça. Là. C'est vraiment un court laps de temps, genre 5, 10, 15, 20 minutes. La personne va manger vraiment beaucoup de nourriture d'une façon vraiment comme frénétique, on va dire là, très accélérée. On goûte à rien, c'est un moment qui est plein de détresse. Finalement, c'est pas agréable comme manger une fondue. Des fois, ça va venir avec un soulagement aussi parce que, tu sais, ça soulage vraiment plusieurs choses. Tu sais, manger, ça libère plein d'hormones positives dans le corps. Fait que des fois, il va y avoir un soulagement. Dans la boulimie, il va y avoir des comportements pour compenser. Fait que soit des comportements comme se faire vomir, jeûner, faire beaucoup d'exercices physiques pour dire « Oh là, j'ai trop mangé, je vais faire quelque chose pour compenser ». Le troisième trouble officiel, mettons, qui est le plus répandu, c'est celui de faire des crises de boulimie, mais sans vraiment de comportement compensatoire. La personne se dit, voyons, ça n'a pas de bon sens, je me fasse vomir, ça n'a pas de bon sens que... Fait qu'elle respire un petit peu avec ses crises de boulimie, mais sans comportement compensatoire.
Celui qu'on appelle l'hyperphagie.
L'hyperphagie, oui, exactement.
Boulimique.
L'hyperphagie boulimique, oui, exactement. Puis ce qu'on voit de plus en plus, puis surtout chez les gars, mais vraiment chez les filles aussi, c'est comme une espèce d'anorexie axée sur les muscles au lieu de la perte de poids. Des fois, on va appeler ça l'anorexie masculine ou la bigorexie. Des fois, on entend ça. Mm-hmm. C'est vraiment un désir là, de développer une masse musculaire, une grande masse musculaire. Puis c'est jamais assez. La personne va s'entraîner encore, prendre toutes sortes de substances pour développer sa masse musculaire. Donc, c'est vraiment la même... Comme l'anorexie, c'est la recherche de minceur, ben, la bigorexie ou la dysmorphie musculaire, des fois, on va dire aussi, c'est vraiment la recherche là, d'une silhouette, soit de plus en plus musclée ou musclée de plus en plus précisément. Oui, okay. Oui, tu sais, des fois, on va appeler ça sec ou cut, ou tu sais, de quelque chose de plus en plus défini. Là. Fait que ça, on va parler de bigorexie.
Puis pourquoi celle-là, on la détecte moins, je vais dire, facilement que la boulimie, par exemple?
Ben, tu sais, une crise de boulimie, la plupart du monde vont dire « Wow, il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas. » C'est super gênant, c'est honteux de parler de ça, mais souvent, la personne, elle sait qu'il y a quelque chose qui marche pas, puis qu'elle a besoin d'aide. Quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, c'est tellement valorisé, tu sais, que c'est dur de déterminer c'est quoi la limite, finalement, entre « Ben, moi, j'adore m'entraîner, puis je m'entraîne tout le temps, versus... » ce trouble-là, tu sais, puis
ça devient un trouble.
Ouais. Où est-ce que ça devient un trouble? Tu sais, on va essayer de chercher quelque chose où ben, ça devient problématique. Il y a un dysfonctionnement.
Il y a une perte d'équilibre.
Il y a une perte d'équilibre. Ça prend trop de temps. Je délaisse mes études, je délaisse mes amis. S'il faut que je m'entraîne, même si je suis blessée, même si je suis fatiguée, même si je suis pas bien, on va dire que c'est excessif. Mais encore là, tu sais, j'entends tout le monde dire, ben oui, mais là, il faut se pousser dans le derrière. Là, même si ça ne me tente pas, il faut que j'y aille au gym. Puis peut-être c'est vrai, mais se pousser dans le derrière puis un coup rendu, c'est le fun. C'est pas la même chose que je suis blessée puis je m'entraîne par-dessus ma blessure puis ça aggrave ma blessure ou j'ai la grippe, je fais de la fièvre puis je vais m'entraîner pareil. Là, on est comme dans dépasser des limites quand ça se prolonge dans le temps.
Quand ça a des impacts sur les autres sphères, mettons, là, un peu comme on en discutait, là. Ma mère est malade, mais là, je vais quand même aller au gym ou j'ai des responsabilités parentales. Je vais aller faire garder, je vais aller au gym. Bon, je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire garder les enfants, là, parce que c'est comme ça tout le temps, c'est tous les jours,
oui, que j'ai pas le choix. Là. Quand c'est inflexible, là, c'est rigide, c'est comme il faut que je le fasse. Puis, on l'a vu beaucoup avec la pandémie, le moment où, boum, on pouvait plus aller au gym, on pouvait plus faire de sport en équipe. Il y a eu les gens qui ont eu la panique de oh, OK, là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, si je suis pas capable de le faire puis que je sens de la détresse puis de l'anxiété, ben, c'est pas un bon signe. T'sais. Ça veut dire que ça commence à être comme une dépendance finalement à cet exercice-là. C'est jamais assez non plus de, même si j'ai atteint mes objectifs, même si j'ai une silhouette qui super, c'est ça que je voulais au début, mais que là, c'est plus que ce que je veux maintenant, ben là, on a encore un problème quand il y a cette escalade-là. Tu sais, dès que la personne va prendre des substances aussi qui mettent sa santé en jeu, ben là, ça vient nuire à la santé. Là, on est plus autour d'un trou.
Fait que c'est moins détectable parce que ça amène moins de détresse qu'une personne qui va, par exemple, avoir des crises boulimiques, ça amène moins de détresse apparente. La détresse, c'est un bigorexique. C'est plus la détresse accompagnée de ne pas le faire, ce comportement-là.
Exactement. Puis c'est la même chose pour l'anorexie. T'sais. Une personne anorexique, je vais dire en pleine anorexie, elle n'a pas de détresse parce qu'elle a trouvé un bon moyen pour gérer sa détresse. C'est se priver, c'est perdre du poids. Quelqu'un qui s'entraîne, pour qui il n'est pas empêché de le faire, il n'a pas nécessairement de détresse parce qu'il a trouvé un moyen pour gérer cette détresse-là. Fait que souvent, boulimie, hyperphagie boulimique, on va en avoir en masse de la détresse. Anorexie, bigorexie, pas au début en tout cas. Ou, t'sais, pendant un bon moment, la personne va comme surfer puis... Il y a vraiment une valorisation sociale qui va venir avec. Là. Wow, t'as perdu du poids. Wow, t'as-tu vu comment t'es shapé? Mais ça peut durer plusieurs mois, plusieurs années à la limite avant que ça dépasse un niveau. Puis que là, les gens commencent à s'inquiéter. Hey, on te voit jamais. Tu viens plus dans aucun événement. T'es où? Qu'est-ce que tu fais? Ou hey, là, t'es tellement maigre, c'est plus beau. T'sais. Fait que là, le monde vire de bord de dire, OK, là, c'est assez. Fait que c'est ce switch-là, des fois, qui va faire apparaître la détresse. Ou comme je disais, la pandémie, c'était un bon exemple parce que là, on a vu apparaître vraiment la détresse tout d'un coup parce que les gens étaient privés de leurs moyens de faire face.
C'est fait que ça ramène vraiment à ce que tu dis, le cercle vicieux. Là. Tu sais, la société encourage l'apparence physique plus athlétique, tout ça. Fait qu'on s'en va au gym, tout ça. Mais là, ça devient malsain. Mais là, la société l'encourage encore, tout ça. Tu sais, fait que les personnes qui se retrouvent dans ce cercle vicieux-là, ils s'en rendent pas nécessairement. C'est ça qui fait qu'ils s'en rendent pas compte.
Ils s'en rendent pas nécessairement compte. Puis surtout pas s'ils sont dans un milieu qui fit avec ça. Si toi, dans ta gang, tout le monde s'entraîne, il n'y a personne qui va te dire que tu passes trop de temps au gym. Si toi, dans ton, mettons, je suis dans une équipe de natation compétitive, il n'y a personne qui va me dire que c'est pas une bonne affaire, que je perds du poids. T'sais. Fait que c'est comme si dépendamment du milieu, ça va être long avant que quelqu'un ait un commentaire de OK, là, c'est trop. Fait que soit la personne ne s'en rendra pas compte ou elle va se rendre compte que oh, elle est fatiguée, elle a mal à la tête, ça marche pas, je me sens pas bien, il me semble que je suis de plus en plus anxieuse, mais ça va être long avant qu'elle se dise « ben je pense que c'est parce que je m'entraîne trop, je mange pas assez » ou peu importe. Là, t'sais. Fait que c'est ces troubles-là qui sont les plus longs à détecter, en effet.
Mm-hmm. Celui-là est le dernier, le nom, le moindre, l'orthorexie.
Oui, l'orthorexie, c'est comme un petit nouveau à la mode aussi. L'orthorexie, c'est vraiment le désir de manger de façon parfaite. Fait que, tu sais, tantôt, Raphaël, tu me demandais si tu liais avec l'anxiété. Bien là, l'orthorexie, vraiment beaucoup. Tu sais, c'est comme une obsession d'une alimentation parfaite. Pourquoi c'est pas la même chose que l'anorexie? Bien, on va dire, il n'y a pas de préoccupation par rapport au poids. La personne, elle fait pas ça pour perdre du poids. Elle fait ça pour bien manger, mais d'une façon excessive. Fait que, tu sais, ça peut être de toutes sortes de façons. Là. Soit je mange juste des aliments bio, soit je mange juste vegan, soit je mange juste des aliments crus. Puis, il y a toutes sortes de raisons, tu sais, pour manger vegan ou faire des choix alimentaires. Il y en a plein qui sont bonnes, mais si cette raison-là, c'est pour avoir une alimentation parfaite, puis qu'on n'est pas capable de
step out un peu.
Oui, c'est ça, tu sais, d'acclimater, tu sais, encore une fois, si je suis malade ou si j'ai des carences alimentaires, par exemple, est-ce que je suis capable d'adapter mon alimentation? Est-ce que je suis capable d'aller manger chez des amis? Est-ce que je suis capable de pas passer un temps excessif, tu sais, à planifier, acheter ma nourriture, préparer ma nourriture? Si ça me prend 4 heures dans ma journée, tu sais, laver mes aliments, choisir mes aliments, puis tout préparer, bien, c'est un temps excessif. Là. J'ai plus le temps d'aller à l'école, puis voir mes amis, puis faire mes affaires. Mmh. Fait que c'est la même logique. Là. Quand ça commence à toucher le fonctionnement, les autres sphères, l'école, la vie sociale, la vie amoureuse, si je suis toujours en train de me chicaner avec ma blonde ou mon chum parce qu'ils trouvent que je mange rien ou que je suis très critique face à l'alimentation à chaque fois que c'est pas moi qui fais à manger, bien là, ça risque de créer des conflits. Fait que dès qu'on a un problème dans une sphère de la vie, bien là, on commence à penser à un trouble.
Mm-hmm.
Mais encore une fois, tu sais, bien manger, c'est super valorisé. Fait que
oui,
c'est long avant que quelqu'un dise « Hey, on dirait que tu manges trop bien. »
C'est ça. Fait que c'est ça qui rend l'affaire plus difficile pour les proches, mettons, de voir ça. Là.
De le voir, puis de dire à la personne qu'ils sont inquiets, tu sais. C'est dur de dire à quelqu'un
oui. «
Hey, c'est-tu quoi? Je pense que ça te préoccupe trop, tu sais, ta façon de manger. » Parce que là, c'est facile de répondre « Mais voyons, tu sais, je fais ça pour ma santé. C'est important à bien manger. » Tout le monde est d'accord que c'est important à bien manger. Fait que on est encore pris dans ces pressions-là de la société qui nous dit « Oui, 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 c'est très, très, très important de bien manger puis de prendre soin de son apparence.
» Ben, tu sais, justement, ça ramène à la prochaine question. Là. C'est quoi les pistes de réflexion? Tu sais, t'as parlé de nommer les inquiétudes, mais à part de ça, est-ce qu'il y en a d'autres?
Oui, quand on commence à tu sais, s'inquiéter d'un proche ou noter des choses, nommer cette inquiétude-là le plus précis possible, c'est ça qui va aider, tu sais, de dire, mettons, « Hey, tu sais, ça fait 2 fêtes d'amis que tu viens pas, tu sais, on dirait que je trouve ça triste, qu'est-ce qui se passe, je m'inquiète pour toi, ou tu viens plus à tel cours, ou, tu sais, il me semble que tu as tout le temps l'air fatigué, ou il me semble que, tu sais, avant, tu t'habillais super coloré, maintenant, on dirait que tu te caches, ou je trouve que tu as perdu beaucoup de poids, moi, ça m'inquiète, qu'est-ce qui se passe? » Donc, nommer notre anxiété, ça peut être un premier point. Pas. Souvent, il faut le faire plus qu'une fois, tu sais, parce que la personne, elle va se défendre un peu. Là. C'est comme si elle s'est trouvée une bouée, puis là, on essaye d'y enlever sa bouée, tu sais. Fait qu'elle va dire non, elle va dire que c'est pas vrai, elle va dire... Fait que des fois, il faut revenir un petit peu à la charge, là, tu sais, de dire, hey, tu sais, l'autre fois, on s'est dit telle affaire, il me semble que là, c'est pire, il me semble que là, je suis vraiment inquiet pour toi pour telle raison.
Mm-hmm. Puis, d'accord, il y a nommé les inquiétudes, mais tu sais, pour les personnes atteintes d'un TCA, d'un trouble de comportement alimentaire, qu'est-ce qui s'offre à eux, mettons? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mettons?
Oui, si on veut aider quelqu'un, là, mettons le rescue kit là, de quelqu'un qui s'enfonce un peu dans un trouble alimentaire, ben c'est sûr que référer à des ressources spécialisées, ça va toujours aider. Il y a des ressources, il y a un organisme qui s'appelle ANEM qui ont des super ressources. Ils ont un site Internet avec plein de d'informations, mais tu sais, de... Je vais dire quiz, là, c'est pas le bon mot, mais comme, tu sais, est-ce que j'ai un trouble alimentaire, là, tu sais, je réponds à quelques questions de petits tests, là, pour dire, là, j'ai-tu un problème ou j'ai pas de problème? Il y a une ligne d'écoute aussi, on peut appeler. Il y a une ligne de clavardage. Mm-hmm. Tu sais, des fois, texter, c'est pas mal plus ouais, fun que prendre le téléphone puis appeler, là. Ça s'en vient un petit peu moins à mode. Fait que le clavardage, c'est des fois une meilleure porte d'entrée pour dire « Hey, mon ami », soit pour s'inquiéter de quelqu'un, soit pour soi-même. « Hey, il m'arrive telle chose, je ne sais pas si c'est correct, je ne sais pas si c'est normal. » de se poser des questions là-dessus. Mmh. Fait que ça peut être une bonne façon. Comme intervenant, tu sais, la première chose qu'on va faire avec quelqu'un qui a un trouble alimentaire ou qui développe ça, on va essayer de régulariser sa façon de manger. T'sais, des fois, on est comme, là, il faudrait que tu manges plus ou il faudrait que tu arrêtes d'aller au gym ou on va essayer de recréer un équilibre. Fait que, tu sais, on va essayer d'encourager la personne à manger plus souvent. Ça ne veut pas dire manger plus, ça veut dire juste manger un peu plus souvent dans la journée, prendre une collation, s'assurer que notre corps, il y a comme un apport alimentaire un petit peu plus régulier.
Comme l'exemple que tu nous donnais du bol de céréales que j'avais trouvé super intéressant. Mm-hmm. Raconte-nous ça.
Oui, j'avais une cliente qui mangeait très peu. Tu sais, elle mangeait un bol de Whole Bran puis une pomme le soir. On s'entend que c'est pas grand-chose, là. Puis ce qu'on avait commencé à faire, tu sais, si on, ça donne rien, là, de dire, OK, mais ben c'est 3 repas par jour, il faut déjeuner, dîner, souper, ça marchera pas. T'sais. Mais de dire, bien, OK, mais on va diviser ce bol de céréales-là en deux. Pas plus de céréales, pas plus de Whole Bran. On va juste en manger un petit peu le matin puis un petit peu le soir avec une pomme à manger quelque part. Puis juste répartir ça, ça réveille un peu le corps. Mm-hmm. Ça vient rappeler au corps qu'il va rebalancer son insuline, ses mm-hmm. hormones liées à l'appétit, tout ça. Fait que ça, c'est vraiment le premier truc qu'on peut faire. Quand on a des crises de boulimie, c'est bizarre, mais la seule chose qui va... pas le seul, mais la principale chose qui va ralentir ou à réduire les crises de boulimie, c'est manger plus souvent. Pas manger plus, pas manger, mais manger vraiment plus régulièrement parce que quand on a faim, c'est sûr que c'est plus facile de faire une crise de boulimie. Okay. Puis même chose pour l'entraînement. T'sais, si je m'entraîne beaucoup, 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 puis c'est comme en escalade, je vais vouloir le répartir, le prévoir dans mon horaire, puis faire juste ce que j'ai prévu. T'sais, si j'ai prévu d'aller au gym, mettons, moi puis mes chums, on va au gym, à tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi, mettons. Parfait, on y va une heure et demie, super. Mais je vais y aller une heure et demie, mais pas 2 heures, puis pas 2 heures et demie, puis je vais pas y aller le samedi, puisque là, je me sens mal d'avoir été manger au restaurant la veille, tu sais. Fait que de se tenir à une routine plus régulière, des fois, ça va être la première chose qui va aider.
Comme proche ou comme intervenant, est-ce qu'il y a des choses, des attitudes qui sont à favoriser par rapport à ces gens-là? Exemple, ben, tu sais, moi, j'ai en tête d'avoir des lieux sécuritaires, des lieux qui accueillent toutes les silhouettes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête?
Oui, la première chose qui me viendrait, c'est vraiment de trouver d'autres choses de quoi parler que de l'apparence, tu sais. Ouais. D'être capable de valoriser les gens pour d'autres choses, tu sais, puis d'éviter vraiment de renforcer les gens ou féliciter les gens parce qu'ils ont perdu du poids, hein, tu sais, de venir comme plus faire des compliments sur ce que la personne fait, tu sais, « Hey, t'es super assidu au gym, il me semble que t'as l'air à aimer ça de plus en plus, tu sais, avant t'étais pas trop sûr, puis là, t'es de plus en plus à l'aise, il me semble que t'as l'air d'avoir plus confiance, tu sais, féliciter sur « J'aime tellement ton style, tu sais, c'est beau, comment tu mets tes cheveux, comment... » Parce que ça, c'est quelque chose que la personne fait, tu sais, c'est comme l'expression de qui elle de comment aller comme personne versus « bravo, ton corps a décidé qu'il allait être moins lourd ». Tu sais. Mm-hmm. J'ai une amie qui dit souvent le poids, c'est juste l'effet de la oh, là, je sais pas le mot, mais le poids, c'est juste l'effet de la gravité sur ton corps. Tu sais. Puis à un moment donné, la loi de la gravité, ça a sa limite. Là, tu sais,
c'est bon,
d'essayer de pas commenter le corps des autres, mais vraiment toutes les autres choses qui sont cool à propos de nos amis, de nos proches. Fait que ça serait comme l'attitude de base. Puis oui, tu sais, de valoriser toutes les silhouettes, puis d'accommoder toutes les silhouettes. Là, tu sais. Il y en a encore à l'université, là, des locaux avec des petits panneaux là, qu'il faut s'asseoir en arrière puis se souigner le petit panneau pour prendre des notes. Mais... ça marche pas. Là,
c'est
ça.
Juste pas confortable, ces chaises-là.
Personne n'est bien. Personne n'est bien, personne n'aime ça. Mais on s'entend que pour les personnes dont leur corps est gros,
oui.
Ils sont vraiment pas bien. Là. Je me rappelle d'un ami qui était vraiment tout coincé puis il était super honteux. Puis moi, j'étais comme, c'est pas toi, là, c'est l'université qui devrait avoir honte parce que c'est complètement ridicule de pas prévoir des espaces plus confortables que ça.
Mm-hmm. Mm-hmm. Puis, ben, tu sais, ça ramène au concept, ben, tu sais, à une vision plus macro. tu sais, en tant que société, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir, tu sais, accommoder ces personnes-là, tu sais, prévenir les troubles alimentaires, tout ça?
Bien, plus on va avoir une attitude de deux affaires, tu sais, plus on va avoir une attitude d'acceptation de toutes les formes de diversité corporelle. Puis ça passe beaucoup par un truc qui s'appelle la représentativité positive, là, c'est-à-dire que on va mettre en position positive des personnes qui sont grosses, tu sais, dans les films, dans les émissions, dans les séries, à la télé, tu sais. Si on avait, mettons, une première ministre vraiment cool que tout le monde aime puis qui est grosse, ben là, on aurait une représentativité positive. Mais, tu sais, nulle part dans le monde, c'est le cas en ce moment, tu sais, surtout pas des femmes. Puis quand il y a des gens en position, tu sais, il y en a des vedettes, on va dire, qui ont un corps qui est plus gros, mais souvent, on va leur poser tout le temps des questions sur leur poids, c'est comme si c'est mis au cœur, là, tu sais, alors que, ben c'est juste une personne, puis elle a toute autre compétence. Fait que vraiment valoriser toute forme de silhouette, la première. Puis la deuxième, ce serait vraiment de s'éloigner de cette idée-là que notre apparence, elle est plus importante que qui on est comme personne, tu sais. C'est vrai que c'est notre façon d'entrer en lien avec les autres, tu sais. On a tout un corps, puis on peut pas le montrer aux autres, à part dans l'émission Love is Blind. À part cette exception, on n'a pas le choix de passer par notre corps, mais plus on va valoriser ce qu'on est comme personne, puis moins ce que notre apparence laisse croire sur nous, mais plus on va favoriser une bonne image corporelle, puis moins on va mettre les gens à risque d'avoir un trouble alimentaire.
Ouais, puis au final, j'ai comme envie d'ajouter un petit convoiteur personnel, mais au final, je pense qu'on apprécie les gens pas pour leur apparence, mais pour ce qu'ils dégagent, pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils nous amènent dans nos vies. Puis souvent, je sais pas pour vous, mais l'apparence devient complètement secondaire quand on aime, on apprécie la personne. Qu'elle se lève les yeux fripés, on s'en fout un peu, là, puis que le look, on s'en fout, ça devient complètement secondaire, donc... Ben quoi, c'est ça, c'est un peu
vraiment. C'est comme si dans notre évaluation de nous-mêmes, c'est super important. Mais moi, ma meilleure amie, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de quoi? En fait, c'est que plus on aime une personne, plus on va la trouver belle. Tu sais, fait que c'est une perception, l'apparence puis la satisfaction corporelle. Quelqu'un qui a du leadership, quelqu'un qu'on aime, qui est affectueux, puis on va trouver cette personne-là plus belle, puis on va comme avoir un biais positif, tu sais, on regarde jamais quelqu'un comme en détail, là, tu sais, Raphaël, ta moustache, tu sais, exactement. On fait jamais, ben là, je le fais, mais tu sais, on fait pas ça, là, on fait comme, hey, il a vraiment l'air cool, Raphaël, en général, tu sais, fait que plus on se rappelle que nous, on fait ça avec les autres, puis plus on le fait avec les autres, ben plus ça nous libère.
Ouais, tellement. Puis je pense qu'il y a aussi un peu de prendre conscience, soit avec soi, là, de se dire c'est quoi mes propres préjugés que j'ai par rapport à la silhouette des autres, d'être conscient de ses propres biais, mettons. Je pense qu'il y a ça aussi.
Oui, puis de notre propre attachement au modèle de beauté, là, tu sais, jusqu'à quel point moi-même, là, je suis attachée à mes privilèges, tu sais, de ben, je suis une personne relativement belle avec un corps qui correspond relativement au standard de beauté, c'est un privilège, ça, puis à quel point je suis attachée à ça, à quel point je me valorise par ça, puis à quel point j'ai l'impression que je juge les autres, finalement, basé sur leur apparence. Faut prendre conscience de où est-ce qu'on en est par rapport à ça, sans se dire « Hey, je suis donc bien pas fine, t'sais, j'ai des préjugés par rapport au poids, c'est pas ça, là. Tout le monde en a, t'sais, moi, je dévoue ma carrière à ça, puis j'en ai quand même. » Fait que c'est pas une affaire de « Ah, oh, non, moi, j'en ai pas. » C'est vraiment de dire « OK, ben voici mes préjugés, voici comment. » Oui, c'est automatique en dedans de moi. Puis comment je peux changer mon focus sur quelque chose d'autre que l'apparence, consciemment.
Juste en prendre conscience, ça peut...
Ça peut faire la différence, ça change le focus, comme on dit.
Exact.
J'ai aussi en tête l'idée de reconnaître la complexité des causes d'avoir ou non un poids X ou un poids Y, finalement, dans le sens que c'est pas parce que j'ai des bonnes ou des mauvaises habitudes que j'ai un poids, puis c'est en pré-entrevue, quand on en discutait, je trouvais ça vraiment percutant quand tu disais que la perte de poids n'est pas relativement proportionnelle ou quelque chose comme ça, à nos habitudes de vie, à nos sports qu'on
ou
fait.
Ou à nos efforts. T'sais, des fois, on a l'impression que notre poids, là, c'est la récompense pour nos efforts, tu sais. Puis, on a une très petite marge de manœuvre, parce que, tu sais, notre poids, il est déterminé en très grande partie par nos gènes. Ça varie beaucoup d'une personne à l'autre, mais de 60 à... ça peut aller jusqu'à 80 % du poids d'une personne qui est déterminée par ses gènes. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'elle, là, son corps a une idée de combien il va peser. Puis, tu sais, spoiler alert, c'est pas toujours 120 livres, ce poids-là. Tu sais, dans la vie, mettons des chats, il y a des gros chats, puis il y a des petits chats. Puis on aime tous les chats. Mais dans la vie, les humains, c'est la même affaire. Il y a des petits humains, puis il y a des gros humains. Puis après, on a une petite marge de manœuvre dans laquelle on peut faire bouger notre poids. Mais cette marge de manœuvre-là, c'est pas 30 livres, c'est pas 50 livres. C'est quelque chose comme un certain 5 à 10 % de notre poids qu'on peut modifier avec nos habitudes de vie. Mais largement, tu sais, la tranche dans laquelle on va se retrouver, là, est-ce qu'on est mince ou est-ce qu'on est plus gros, ben ça, c'est largement déterminé par la génétique. Puis mettons qu'on rajoute après là-dessus les autres facteurs, tu sais, les facteurs comme, ben, j'ai-tu grandi dans une famille qui valorisait ça, mettons, l'activité physique? Est-ce que j'ai des ressources financières pour faire l'activité physique? Est-ce que j'ai le temps de faire l'activité physique? Si j'ai deux jobs pour être capable de payer mon loyer, à part marcher entre mes deux jobs, ça se peut que j'aie pas beaucoup de temps puis pas beaucoup d'argent pour en faire de l'activité physique. Fait que c'est comme s'il y a plein d'autres facteurs qui vont venir limiter vraiment aussi notre capacité à réguler notre poids. T'sais, puis même l'activité physique, il y a des grandes injustices. Là. Il y a des gens qui vont... Il y a des études qui montrent que pour la même somme d'activités, là, mettons, on fait exactement le même temps de vélo à la même résistance pendant tant de temps, il y a des gens qui vont perdre du poids, il y a des gens qui vont garder leur poids, puis il y a des gens qui vont prendre du poids. Je parle pas de prendre la masse musculaire, là, je parle de prendre du poids parce que le corps est comme en mode « Hey, je sais pas ce qui se passe ici, mais moi, j'aime pas ça, fait que je vais me faire de la petite protection, fait que je vais prendre du poids. » Fait que même la réaction à l'activité physique, c'est la même chose pour couper. Si je décide de couper mon alimentation, manger moins, il y a des gens qui vont perdre du poids facilement, il y a des gens que leur poids ne va pas changer, puis il y a des gens qui vont prendre du poids parce que leur corps va se dire « Hé, on a quand même une petite famine, fait qu'on va se réajuster, puis on va se faire des réserves. » Fait que c'est pas... Tout le monde ne réagit pas de la même façon aux habitudes de vie, puis ça fait qu'effectivement, on a pas... Il faut comme... C'est un petit deuil collectif, là, tu sais, de se dire qu'on n'a pas autant le contrôle sur notre corps que ce qu'on voudrait ou ce qu'on aimerait, tu sais. Puis des fois, on l'a à un certain moment... Puis après, je sais pas, on a des bébés, on a une famille, on a une job, on a des choses qui nous arrivent dans notre vie. Des problèmes de santé mentale, des blessures physiques, plein de choses qui peuvent arriver dans une vie qui fait que, hop, le sentiment de contrôle qu'on avait sur notre corps, ben là, on se rend compte qu'on l'a plus tant.
Ça prend le bas, hein? Tout à fait. Donc, ça rajoute au fait que, ben, il faut pas que notre valeur personnelle repose sur notre satisfaction corporelle ou notre...
Uniquement, c'est le principe de la pointe de tarte. Si mon estime repose sur une couleur, puis c'est une pointe de tarte, puis c'est toute l'apparence, bien, toutes mes œufs sont dans le même panier. Ouais. Si je suis capable de définir ma valeur personnelle, OK, peut-être une pointe de tarte avec mon apparence, mais d'autres pointes de tarte, je suis donc bien un ami drôle, je suis donc bien bon pour m'occuper de réparer des affaires à la maison, je suis donc bien bon pour écouter les autres, je suis donc bien bonne pour courir vite. Bien là, on a comme d'autres pointes de tarte qu'on rajoute.
Ça me fait penser un peu au film Sans dessus-dessous 2, là. Tu sais, c'était... Je sais pas si vous l'avez écouté.
Je l'ai pas vu.
Non. En fait, sans spoiler.
Non, c'est pas impossible.
En fait, il introduisait le système de croyances fondamentales, tout ça. Puis, en tout cas, vers la... Au début, il y a seulement une croyance fondamentale, tu sais, que le personnage Riley, c'est je suis une bonne personne, puis là, l'anxiété arrive, c'est je suis pas à la hauteur. Mais là, vers la fin, on se rend compte que il peut avoir plusieurs facettes. Je peux être une bonne personne, je peux être une bonne amie, je peux être moins bon, moins bon à ça, tout ça. Fait que, tu sais, de ce que je comprends, c'est vraiment ne pas. Que l'estime ne repose pas uniquement sur notre apparence physique. Là.
Exactement. Puis encore une fois, sans dessous-dessous, touche dans le mille en disant que ben, notre identité, elle a aussi des bouts pas bons. Tu sais, je suis pas juste bonne dans tout. Là. C'est normal de dire hey, « moi, je suis vraiment pourrie ». Moi, personnellement, là, pour vrai, je suis tout le temps en retard. Là. Fait que, mettons, ça, c'est une des parties de moi qui n'est pas à la hauteur. Puis ça fait pas de moi une pas bonne personne. C'est juste une partie de moi parmi tant d'autres.
Ça, fait que ça ramène à ce qu'on disait au début, là, aussi accepter ses petits défauts. Puis,
exactement.
Ouais.
On compose avec ça. Donc, prendre conscience de nos préjugés, reconnaître la complexité, accueillir toutes les silhouettes, puis accorder plus d'importance à la démarche ou à la compétence plutôt qu'à l'apparence physique. Ça nous amène un peu à notre Notre dernière question ultime, les références, vers quoi on se tourne? On a parlé d'Anem tantôt. Y a-t-il d'autres choses vers lesquelles toi tu suggérerais? J'ai en tête un balado en particulier.
Oui, mais Anem, je suis une grosse fan, là, fait que ça, c'est super. Puis pour les plus jeunes, aussi, il y a aussi Anem Ado, qui a comme une version plus attirante des fois pour les jeunes. Il y a un site web qui s'appelle équilibre.ca aussi, qui ont plein de réflexions. Leurs médias sociaux sont super intéressants. Ils ont plein de campagnes aussi de sensibilisation. Il y en a une à l'automne qui est contre la grossophobie. Il va y avoir une publicité télé qui met en scène des micro-agressions. Il va avoir, ils ont vraiment plein de contenu sur comment faire de l'activité physique de façon bienveillante. J'adore aussi cet organisme. Puis récemment, j'ai participé à un balado qui s'appelle...
Celui
oui.
D'Alice?
Oui, c'est ça. C'est...
Alice Morel, Miroir.
Ah oui, c'est ça.
L'image corporelle chez les jeunes.
Oui, oui. Récemment, j'ai participé à un balado qui s'appelle... qui est mené par Alice Morel, là, la comédienne super sympa, qui s'appelle Miroir, l'image corporelle des jeunes. C'est super intéressant parce que Alice parle de comment elle a été plongée un peu dans... son poids a été commenté beaucoup, son poids a varié dans sa jeune carrière. Puis elle a été plongée un peu à être obligée de commenter ça. Puis le balado, c'est une quête de dire « Hey, moi, qu'est-ce que je pense de mon corps? Puis comment je vis à travers tout ça? » Fait que c'est super intéressant. Elle a rencontré plein d'experts, puis ça finit par une discussion avec ses amis, comme autour d'un souper. Le ton du balado est vraiment le fun, fait que je le recommande.
Très cool. Je pense qu'il y a aussi une fondation Jeune en tête.
Oui, Jeune en tête, ils font aussi beaucoup de choses sur la prévention ou la promotion de la santé mentale chez les jeunes. Puis de plus en plus, ils ont un volet autour de l'image corporelle, des ressources, des petites capsules, des trucs qui sont comme faciles là, pour les parents aussi, comment on fait pour encourager nos enfants à développer une bonne image corporelle. Fait que la Fondation Jeunes en tête, super ressource.
Oui, super. Puis le dernier, non le moindre, là, le site web Bien dans mon corps par Dr. Stéphanie Léonard.
Oui, exactement, qui depuis longtemps là, est un des piliers là, au Québec de l'image corporelle positive chez les jeunes.
Eh bien, toutes des super réflexions, des super outils. J'adore tout de ce podcast-là, de ce balado-là, de cet épisode-là, tout le monde. Fait qu'encore merci infiniment, oui. Marie-Pierre, d'avoir été sur le balado.
Merci pour cette invitation-là. On n'en parle jamais.
Oui, c'est aussi ce que je pense. Je pense que plus on en parle, plus on démocratise tout ça, puis plus on rend ça accessible. Donc, encore merci. Merci à toi, Raphaël.
Bien, merci à toi, Jessica. Puis merci à toi aussi, Marie-Pierre. C'est vraiment un épisode très, très intéressant. Puis en espérant que ça va parler à beaucoup de monde.
Être utile, hein, oui. Donc, on se revoit dans un prochain épisode.
Oui, merci beaucoup.
Merci.